Nous allons passer tout de suite à nos questions et réponses. Mais avant tout, j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau directeur de l'information publique, M. Charles Bambara. Pour vous qui êtes dans la salle, il est juste là derrière moi et j'espère que... s'il vous plaît. Oui, vous pouvez le voir, il est assis derrière et j'espère que nos collègues de Goma aussi arrivent à le voir. Il est là, il aura l'occasion de vous rencontrer puisqu'il vient juste d'arriver. Donnez-lui le temps de s'installer et vous pourrez le rencontrer quand vous voulez. Monsieur Charles Bambara, certainement que vous avez déjà entendu son nom puisqu'il a longtemps travaillé pour BBC. Voilà, nous passons tout de suite aux questions et réponses et comme d'habitude, je vous demanderai de bien vouloir fermer vos téléphones ou les mettre sur silencieux et à tous ceux qui vont prendre la parole, veuillez vous présenter ainsi que l'organe de presse que vous représentez. Nous allons prendre 3 questions sur la droite, nous allons aller à Goma et nous prenons ensuite 3 questions sur la gauche. Nous commencerons par le fond avec la dame. Oui madame, prenez le micro s'il vous plaît.
Ouais, ma question, je m'appelle Lorinda Kresso, maintenant je suis sur Étoile de Mer. Ma question, elle est posée au colonel Bass. Des informations en provenance de pays contributeurs à la brigade d'intervention font état d'une incompréhension entre le Sud-Africain, enfin les éléments de Sud-Africains et Ougandais, parce que les éléments Sud-Africains et Ougandais ainsi que de la MONUSCO, ne trouvent pas comment faire pour neutraliser le M23, tout simplement parce que le M23 est protégé par les autorités rwandaises. Qu'en dites-vous, Monsieur Bass?
Oui, merci pour votre question. Malheureusement, je n'ai pas connaissance de ces informations-là. Et jusqu'à présent, je ne pense pas qu'il y ait un quelconque problème entre les pays contributeurs de troupes, parce que vous savez, le maintien de la paix, c'est les contributeurs de troupes qui le font. Et en plus de cela, ce sont des pays qui se sont volontairement portés, pour apporter leur contribution à la restauration de la paix dans la province du Nord Kivu.
Deuxième question, s'il vous plaît, toujours sur la gauche. Y a-t-il quelqu'un sur la gauche? RTNC?
Oui, ma première question s'adresse à M. Mounoubaï. Avec M. Mounoubaï, avec la, c'est venant vous dire ça pour la RTNC, avec l'adoption de la résolution 2098 par les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, que reste-t-il de l'accord cadre signé dernièrement dans la capitale éthiopienne, plus précisément à Addis Abeba? Parce que c'est comme si cet accord était vidé de tout son sens, ou ça ne garde plus l'actualité. Mon colonel, c'est la même dans, je vais abonder dans le même sens que ma consoeur tout à l'heure. Vous ne dites pas de problème au niveau des pays contributeurs. Oui, vous avez parfaitement raison. Mais, je dis mais, et si, malgré la bonne volonté du président Zuma, et si le Parlement sud-africain arrivait à s'opposer à l'envoi de ces troupes, disons, au déploiement de ces troupes en RDC. Parce qu'ils en ont la triste expérience. Et c'est la triste expérience, c'est celle de la République centrafricaine. 13 sud-africains sont tombés. Merci.
Pour répondre à votre question, je vous lirai simplement le point 3. De cette résolution. Et le point 3 dit ceci, le Conseil de sécurité encourage la mise en place rapide d'un mécanisme de suivi régional. 11 plus 4, c'est-à-dire les 11 pays qui l'ont signé, plus les 4 pays observateurs, impliquant les dirigeants de la région sous les bons offices et garants de l'accord cadre, qui se réuniront régulièrement pour examiner les progrès accomplis dans l'application des engagements régionaux pris au titre de l'accord cadre. Ça veut dire que l'accord cadre reste toujours de vigueur, ça reste un instrument important dans la recherche d'une paix viable, non seulement en République démocratique du Congo, mais dans la région des Grands Lacs.
Bon, merci pour votre question, même si elle a un peu une connotation politique. Vous savez, je ne commenterai pas les discussions ou les mécanismes internes de démocratie dans un pays comme l'Afrique du Sud, qui, à mon avis, c'est tout à fait normal. Vous avez tantôt parlé de l'expérience de la Centrafrique, au cours de laquelle 13 soldats sud-africains ont péri suite à l'attaque de la CELICA. Mais je pense que ce sont des dynamiques internes qui témoignent un peu de la vitalité de la démocratie d'un pays pour que des questions aussi sérieuses, des questions aussi importantes soient discutées dans l'hémicycle national pour savoir comment, quand et dans quelles conditions ces troupes seront déployées en République démocratique du Congo. En ce qui nous concerne, nous nous attelons beaucoup plus à préparer la venue de ces troupes, à mettre en place un système ou un mécanisme qui leur permet de s'intégrer facilement dans la composante globale de la force de la MONUSCO afin de remplir la mission qui leur a été donnée par la résolution 2098.
Merci. Une dernière question sur la droite, s'il y en a. Oui, M. Tshisekedi.
Merci pour la parole, monsieur le porte-parole. Je suis M. Tshisekedi pour le journal Multimédia News. Ma question s'adresse au porte-parole militaire, premièrement. Monsieur le porte-parole militaire, ma question tourne autour de la brigade d'intervention. Beaucoup d'observateurs redoutent la capacité de pays qui se sont portés volontaires à opérer dans cette brigade par faute d'expérience militaire. En fait, je fais allusion à Malawi, Tanzanie et l'Afrique du Sud. Beaucoup disent que ce sont des pays inexpérimentés en matière de guerre. Pensez-vous que ces pays ne pourront pas en fait faire face aux groupes de rébellion qui sont en République démocratique du Congo? Et beaucoup pensent qu'à la place de faire recours à ces pays, pourquoi ne pas doter l'armée congolaise avec de moyens conséquents en tout pour qu'elle puisse faire face à la rébellion? Merci.
Je vous remercie. Si je comprends bien, votre question renferme deux volets. Le premier, c'est le premier a trait à l'aptitude des troupes qui se sont portées volontaires pour venir aider à restaurer la paix à l'est de la RDC. Je pense qu'il faudra faire très attention parce que ce sont là des affirmations ou en tout cas des gens qui préjugent la capacité d'une force parce que je ne pense pas qu'ils connaissent bien l'armée malawite, qu'ils connaissent bien l'armée tanzanienne, mais toujours est-il que nous, on se félicite d'abord qu'il y ait des pays qui acceptent de pouvoir envoyer leurs hommes sur le terrain, essayer de contribuer à amoindrir ou en tout cas à mettre fin au drame que vivent les populations du Nord Kivu, les populations civiles. Maintenant, concernant la mise en place ou en tout cas la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, vous conviendrez bien entendu avec moi que ceci est d'abord une responsabilité du gouvernement congolais, de l'État congolais, bien sûr en appui avec tous les partenaires au développement ou tous les partenaires qui accompagnent le processus de sécurisation des populations de l'Est. Donc je pense que votre préoccupation est légitime, mais qu'elle pourrait être orientée ailleurs.
Merci. Nous allons tout de suite à Goma. Bonjour Goma. On peut prendre une question chez vous.
Bonjour. Bonjour. Merci pour la parole. Moi, c'est Poli de Radio Tchem Tchem. La question, je vais la poser à monsieur le lieutenant Bas. Ça réside comme ça. Où se trouve le pasteur Niga aujourd'hui et à quand nos militaires qui sont à Minova vont retourner dans la ville de Goma?
Merci, mon colonel.
Oui, aux dernières nouvelles, sans pour autant être affirmatif, nous savons que M. Jean-Marie Runiga, suite à l'attaque qui avait été lancée par Sultan et Makenga contre les troupes de Bosco Ntaganda, que M. Runiga se trouverait au Rwanda. Ça, ce sont les dernières informations. Maintenant, à quand le retour des militaires FRDC qui se trouvent vers Sake ou vers Minova? Je pense que vous avez suivi avec nous ici qu'il y avait il y a eu des décisions qui ont été arrêtées par les chefs d'État de la région des Grands Lacs concernant le respect des dispositions qui ont été arrêtées à Kampala, notamment le retrait du M23 de la ville de Goma, mais aussi son déploiement à 20 km de Goma. Donc les militaires FRDC sont dans cette dynamique, sont présentement prépositionnés hors de la ville de Goma, mais n'oubliez pas que vous avez aussi une unité, un bataillon FRDC qui est dans la ville de Goma et qui vient en appui à la police nationale congolaise pour sécuriser la ville de Goma et ses alentours.
Une deuxième question de Goma.
Oui,
Touré Oundi de la RTNC Mediatour. La question s'adresse au porte-parole à MONUSCO. Il est dit dans la 2098 au point 23 que la MONUSCO est engagée en coordination avec la CDRGL pour vérifier tout ce qui s'est dit. Et pourtant, il y a quelques 3-4 jours, la population et la société civile soutiennent que le Rwanda et l'Ouganda sont entrés en appui au M23 pour un assaut sur Goma, Kanyabayonga, Butembo, Beni. Mais la MONUSCO et le CDRGL se taisent. Que se passe-t-il réellement?
Non, la MONUSCO et le CRGL, et il faut parler pas du CRGL, il faut parler de la commission de mécanisme conjoint de vérification et la MONUSCO. Ces deux institutions, la MONUSCO et le mécanisme conjoint de vérification, ont fait leur travail et n'ont pas confirmé ces rumeurs-là. Une dernière question de Goma.
Oui, merci. Aline Engwe pour Top Congo FM Magazine, La Voix de Femmes. La première question s'adresse à M. le porte-parole militaire et les deux autres à M. Mounoubaï. Face au langage menaçant et aux défis que le 1-23 lance à l'ONU, le calendrier du déploiement de la brigade d'intervention sera-t-il modifié? Deuxième question, la MONUSCO a-t-elle été prévenue des discussions en cours entre le 1-23 et le gouvernement congolais à Kampala? La résolution 2098 condamne le M23, le qualifie de force négative et lui demande de se dissoudre immédiatement. Ce dernier est en discussion avec le gouvernement de Kinshasa. N'est-ce pas là une violation de la résolution 2098? La dernière question, le nouveau président kenyan Uhuru Kenyatta, qui est poursuivi par la CPI, est resté libre jusqu'à son élection, alors que notre ancien vice-président Jean-Pierre Bemba s'est vu plusieurs fois refuser la liberté provisoire. Pourquoi cette injustice de la part de la CPI? Merci.
Merci beaucoup, mon colonel. Première question.
Oui, merci. Je ne pense pas que les activités de propagande menées par le M23 puissent changer ou modifier les dispositions qui ont déjà été prises au niveau des Nations Unies concernant le déploiement de cette force. Nous continuons à travailler dans la sérénité. Nous avons des objectifs bien précis que nous comptons quand même atteindre conformément à la résolution qui nous a été donnée. Donc je pense que laissons les choses se passer normalement. Nous y travaillons. Nous voyons comment accueillir et intégrer de la façon la plus souple cette brigade afin qu'elle soit à même de pouvoir faire son travail avec les FRDC ou de manière unilatérale.
Concernant votre deuxième question, la résolution 2098 ne ferme pas la porte aux solutions politiques et à la recherche de solutions par des voies non violentes. Donc, ce n'est pas qu'à partir du moment où il y a la 2098, on doit seulement faire la guerre, mais s'il y a encore des groupes qui s'engagent dans la voie des négociations pour trouver des solutions politiques, il est tout à fait normal d'encourager cela. Concernant votre deuxième question, nous n'avons pas avec notre collègue de la CPI, mais je pense que les deux parallèles ne sont pas tout à fait corrects. Dans le cas du sénateur Bemba, il est déjà devant la CPI. Les procédures judiciaires ont déjà été entamées contre lui. Dans le cas du président Uhuru Kenyatta, il n'est pas encore à la CPI et nous ne sommes encore que dans les préliminaires il n'y a pas encore eu, je dirais, de procédure judiciaire entamée contre lui. Nous revenons à Kinshasa, nous prenons des questions sur la gauche. Première question avec l'ACP.
Merci, Nkeremaï de l'Agence congolaise de presse. Nous avons applaudi la résolution 2098 parce que nous pensions qu'il fallait envoyer une force spéciale à l'instar de la force Artemis en Ituri. Mais à l'allure où vont les choses, je me demande s'ils ne seront pas déçus. Dans la mesure où la MONUSCO a une cartographie de l'implantation des groupes armés dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et la MONUSCO nous avait présenté cette cartographie il y a quelque temps. Mais comment cette force va détruire les groupes armés dont ils connaissent l'implantation sans, si vous voulez, casser les œufs, c'est-à-dire sans atteindre la sécurité des populations. Vous vous rappelez le dilemme dans lequel s'est placé le général Prakash le 20 novembre à l'entrée du M23 à Goma. Il ne savait pas s'il fallait détruire le M23, c'est-à-dire attaquer le M23, ou laisser le M23 entrer dans la ville de Goma. Donc voilà encore une énigme dans laquelle va se placer les Nations Unies. Deuxième question, je voulais savoir ceci, parce que le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a parlé des causes profondes qui sont à la base de l'insécurité et de l'instabilité, notamment à l'est du pays. Mais ces causes n'ont jamais été, disons, éliminées jusqu'à ce jour. Alors, comment on va aborder cette étape ici de la MONUSCO au moment où il y a l'impunité, au moment où l'autorité de l'État, ceux qui ont été avec moi dans une frontière dans le nord et le sud, qui vous le savent, qu'à une localité, il n'y avait ni policiers, ni gendarmes, ni militaires. Comment cette force va entamer ce travail dans un endroit où il n'y a ni force de police, ni gendarmes, ni rien, autorité de l'État, il n'y a que les groupes armés. Comment ils vont entamer cela?
Mon colonel, vous voulez prendre une partie? Ou bien?
Oui,
ok.
Je pense que votre scepticisme concernant le déploiement de cette brigade peut peut-être se comprendre, même si ici se justifie pas. Vous avez parfaitement raison de dire que nous avons une cartographie précise de la localisation des groupes armés, aussi bien au nord Kivu que dans toutes les autres provinces, parce que nous avons travaillé à l'élaborer et à mettre en place cette cartographie. Cette cartographie est un outil précieux qui nous permettra justement, une fois que cette brigade sera là, de pouvoir mener les actions nécessaires pour neutraliser les groupes armés. Et vous savez effectivement que quand on mène des actions offensives, quand on mène des actions mobiles de haute intensité, il est évident que la prise en compte des dégâts collatéraux doit être notre préoccupation, parce que c'est ce qui fonde notre mandat, qui est de protéger les populations civiles. Donc, avec nos partenaires FRDC et avec tout l'engagement et la bonne volonté ainsi que la détermination des troupes de la MONUSCO, je pense que nous contribuerons à sécuriser un peu plus les populations. Mais vous savez, l'option militaire n'est pas la seule option, justement, dans la dynamique qui a été enclenchée par les Nations Unies afin de mettre en place un processus de paix. La brigade d'intervention est certes un outil précieux, mais n'est pas la panacée. D'autres acteurs et d'autres initiatives au plan politique, au plan diplomatique sont en train d'être menées, et je pense que, ensemble, nous concourrons à ramener un peu plus de paix et de sécurité aux populations civiles qui en ont besoin.
Oui, je compléterai en disant cela. Vous avez dit que les Nations Unies n'ont pas pris en compte les causes des problèmes à l'est de la RDC. mais c'est justement en prenant en compte ces causes qui persistent malgré tous les efforts qui ont été faits jusque-là que le Conseil de sécurité a décidé de créer à l'intérieur d'une mission de maintien de la paix une brigade d'intervention. Ça ne s'est jamais fait nulle part dans aucune mission. C'est la première fois, ça va être une expérience, comme beaucoup d'autres expériences ont été tentées d'abord ici au Congo pour être étendues ailleurs, comme les équipes conjointes de protection, les assistants de liaison communautaire, toutes ces choses pour renforcer le travail de la MONUSCO, le travail de recherche de la paix et la sécurité de la population ont d'abord été expérimentés en République démocratique du Congo avant d'aller ailleurs. Ceci étant dit, maintenant, comme l'a dit le colonel, en même temps qu'on va renforcer l'offensive pour la neutralisation de ces groupes armés, on va continuer aussi à privilégier les actions politiques. Donc, il ne faut pas penser que ce sera uniquement militaire et qu'on ne va plus soutenir les actions politiques. Bien au contraire, l'action militaire, l'intervention sur le terrain est pour forcer une résolution politique. Derrière, Numérica.
Albert Romba, Numérica TV. Je reviens un peu plus sur la question de M. Kerr tout à l'heure au sujet du déploiement. Et vous vous rendrez compte que quand la MONUSCO a quitté l'Ituri pour le Nord Kivu, on avait d'énormes difficultés pour le déploiement de forces de la MONUSCO aux endroits après cités. Et si par mégarde, les forces négatives que la brigade spéciale va, la brigade d'intervention va poursuivre, se déplacer des lieux et de la cartographie que dispose de la MONUSCO, comment vous allez, la force de la MONUSCO va s'y prendre pour les délocaliser de nouveau?
S'il vous plaît, reprenez juste la question.
Si au moment présent, il y a des mouvements de déplacement des forces négatives vers des endroits inconnus, comment la force spéciale va se déployer pour les délocaliser de ces endroits?
Merci. D'abord, il faut tenir compte d'une chose, c'est que la MONUSCO est déployée dans toute la République démocratique du Congo, en grande partie à l'Est, et il est tout à fait normal, comme vous le savez, que lorsque les groupes armés sont traqués, il est tout à fait naturel qu'ils se replient ou en tout cas essaient de chercher refuge ailleurs. Mais notre déploiement est assez conséquent et comme vous l'avez dit vous-même, nous avons les moyens nécessaires, les moyens logistiques pour essayer de contrecarrer tous ces mouvements éventuels qui pourraient survenir à l'issue des actions offensives que nous allons mener. Mais d'ici là, attendons de voir le déploiement, attendons de voir comment est-ce que cette force va travailler, mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'engagement est total et cette force est là pour participer à la résolution d'un conflit à l'est de la République démocratique du Congo.
Merci. Nous prenons une question au fond, tout à fait au fond. Il n'y a pas de micro.
Merci. C'est Steve Wendy pour l'agence Chine Nouvelle. Ma première question s'adresse à M. Sylvestre. Le M23 a indiqué dans une lettre adressée au coordonnateur de OCHA-RDC, il lui a invité à évaluer les conséquences catastrophiques de la résolution 2098 dans l'Est, donc après, quand ils vont s'affronter avec la brigade. Est-ce qu'ils ont déjà reçu une réponse? C'est ça la première question. La seconde question s'adresse au colonel Bass. Monsieur le colonel, ça fait plus de 10 ans que la MONUSCO est en RDC. Vous êtes partenaire des forces armées congolaises. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'armée congolaise peut résoudre seule, sans appui, une attaque interne? Merci.
Sylvestre.
La question est juste de savoir si oui ou non nous avons répondu à M23. La question est non,
Mais vous devez également savoir que, indépendamment de cette lettre, notre rôle, c'est de s'assurer, quand il y a des situations, des crises humanitaires qui se créent quelque part, de pouvoir être à même d'y répondre à temps et de la façon la plus efficace qu'il soit. Donc, nous sommes attentifs à l'évolution de la situation sur le terrain, mais quant à écrire à M23, nous ne l'avons pas fait.
Si je peux ajouter quelque chose, je trouve quand même un peu, je dirais, bizarre le message contenu dans cette lettre, parce que nous savons que le M23 est à l'origine de la crise que nous connaissons dans les parties où ils sont installés. C'est eux qui insécurisent la population, c'est eux qui créent des nouveaux déplacés. Donc, il ne faut pas qu'ils déplacent la responsabilité. Ils sont les premiers responsables de l'insécurité et de l'augmentation des déplacés dans les zones où ils sont installés et qu'ils occupent. Donc, il ne faut pas qu'ils déplacent ça pour dire que c'est la force d'intervention qui va venir, qui va insécuriser la population. Ce n'est pas vrai. Mon colonel.
Oui, loin de moi toute prétention à vouloir évaluer la capacité opérationnelle de l'armée congolaise, mais je vous dirais tout simplement que si la MONUSCO, l'esprit dans lequel la MONUSCO est présente en République démocratique du Congo, c'est d'abord sur invitation du gouvernement congolais, et deuxièmement, c'est en appui aux autorités de ces pays afin de pouvoir mettre un terme à cette crise que nous savons qui est multiforme, qu'elle soit sécuritaire, qu'elle soit humanitaire, etc. Mais toujours est-il que je pense que vous êtes journaliste de la République démocratique du Congo. Vous l'avez dit vous-même que depuis 10 ans la MONUSCO est là, donc ça veut dire que ça fait 10 ans que vous suivez ce que la MONUSCO fait en partenariat avec l'armée congolaise pour essayer de sécuriser les populations civiles. Certes, tout n'a pas été rose, mais vous conviendrez aussi avec moi que des efforts significatifs et que des résultats tangibles ont été atteints afin de ramener un peu plus de sérénité et de sécurité aux populations civiles.
Ok, brièvement, nous prenons 2 questions de Goma. Goma?
Je suis Benza Robert de la radio-télévision Graben, et ma question est de savoir... Avec la résolution 2098 de la MONUSCO, a été dotée de 19 815 hommes et qui vont se diviser en 2 composantes avec 2 missions différentes. Et la première qui aura plus de 17 000 hommes et qui aura pour mandat principal de la protection des civils, et l'autre qui sera composée de 2 700 éléments et qui a pour mandat de traquer et neutraliser les groupes armés. Et ma question est de savoir... Qu'est-ce qui va différencier ces 2 composantes sur terrain pour éviter que les chargés de protection des civils soient confondus par les groupes armés et être victimes des cibles de ces derniers?
Mon colonel.
Je pense qu'il faut lever l'amalgame et tout de suite. La brigade d'intervention qui va être déployée en RDC fera partie intégrante de la MONUSCO. Et ce n'est pas parce qu'elle aura pour mission de neutraliser les groupes armés qu'elle a un mandat complètement différent. Parce que dans cette mission, la préoccupation majeure, c'est la protection des populations civiles qui reste d'actualité. Donc, nous avons au sein de la force de la MONUSCO une brigade qui aura la tâche essentielle de désarmer, de traquer et de neutraliser les groupes armés afin que les autres initiatives qui sont prises sur un autre plan puissent être menées à terme. Donc, il ne faut pas que cet amalgame persiste. C'est une seule mission, c'est une seule MONUSCO, avec à l'intérieur une unité qui aura une mission spéciale qui est celle de désarmer et de neutraliser les groupes armés avec ou sans les FRDC.
Une autre, à la dernière question de Goma.
Oui, toujours en rapport avec cette brigade, hein, c'est Hortense pour Digital Congo. Je voulais savoir, pourquoi est-ce que la brigade ne veut pas aller directement où se trouvent les forces du M23? Pourquoi, aujourd'hui, on apprend qu'il y aura installation des quartiers généraux à Goma. On veut avoir assez de détails. Pourquoi ne pas aller directement vers Monigui, là où ils sont déjà 10 ans en face à face avec la brigade indienne. On veut un peu avoir assez de détails sur cette question. Merci.
Merci, madame. Mais vous savez, il faudra peut-être clarifier une chose. Un état-major est une structure de commandement et de coordination des opérations. Cet état-major, son implantation tient compte de beaucoup de facteurs qui sont déterminés dans la phase de planification des opérations à venir. Ne vous en faites pas, cette brigade n'est pas venue pour rester à Goma. Cette brigade est venue pour se déployer. Donc aujourd'hui, nous avons déjà un état-major réduit qui est en train de travailler à Goma, qui est en train de se mettre en place pour faciliter l'arrivée des troupes qui vont être injectées pour faire le travail pour lequel elles seront déployées. Donc, je pense qu'il faudra lever cet équivoque-là. La brigade d'intervention ne sera pas basée à Goma. Son état-major pourrait être à Goma, mais cette brigade doit mener des actions offensives de grande mobilité. Donc, ça veut dire, à travers toute la province, cette brigade sera projetée. Et dans sa composition, dans son organigramme, vous verrez vous-même qu'elle a aussi bien des forces spéciales que d'autres forces qui auront pour mission de conduire avec l'appui de l'artillerie, avec tous les moyens qui sont mis à sa disposition pour aller traquer les groupes armés et les neutraliser. Maintenant, des groupes armés pourraient bien sûr, avant même que nous commençons le travail, et c'est ça l'intention d'ailleurs, faire reddition et revenir un peu ou au DDR ou au DD3R.
Merci. Nous revenons à Kinshasa. L'AFP.
Non, c'est RFI.
RFI, pardon.
Bruno Mina, c'est RFI. Oui, une question sur la logistique. La presse sud-africaine a fait état dimanche d'un début de pont aérien pour amener du matériel à l'aéroport d'Entebbe et peut-être même des troupes. Où est-ce qu'on en est actuellement dans l'organisation logistique? Et est-ce que vous confirmez l'arrivée déjà de ce matériel et de ces troupes à Entebbe?
Premièrement, je ne peux pas confirmer l'arrivée de ce matériel à Entebbe, mais vous savez que, bien sûr, quand on projette des troupes d'Afrique du Sud jusqu'en RDC, en République démocratique du Congo, il est évident qu'un déploiement logistique conséquent sera initié. Et peut-être que dans les jours à venir, nous verrons ce que c'est. Mais pour le moment, les gens sont dans la phase de formation des unités, dans la phase de préparation avant d'être déployés.
Merci beaucoup. Nous allons rendre l'antenne. Nous allons vous remercier d'avoir fait le déplacement ici. Merci à nos collègues de Goma. Merci à nos auditeurs de Radio Okapi qui nous ont suivis sur le territoire national ou sur le net. Rendez-vous mercredi prochain.